On se tourne aujourd'hui dans Zacharie 10. Encore une fois, Zacharie fait partie des petits prophètes, comparé à Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. Il a le volume de des documents qu'il a écrits est moindre. Mais parmi les petits prophètes, il est un des prophètes les plus prolixes, un de ceux qui a écrit le plus. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on a commencé. Et on a vu qu'en fait, son nom voulait, et le nom de ses ancêtres voulait dire que Dieu se souvient et qu'il bénit autant voulu, autant qu'il a décidé. Donc Dieu se souvient de son peuple. On peut avoir l'impression d'être oublié, mais c'est un mensonge inspiré par l'ennemi. Dieu pense à vous et il attend le bon moment pour nous bénir. On a vu qu'il encourageait les exilés qui revenaient de Babylone pour construire le temple à Jérusalem. Dieu avait inspiré un autre prophète, le prophète Agée, qui avait secoué les exilés qui étaient bien confortables à Babylone. Ils avaient construit de belles maisons, ils étaient prospères dans leur commerce, mais Dieu avait mis sur leur cœur de retourner et de s'occuper des choses importantes en premier, à savoir les choses spirituelles, rendre gloire à Dieu en rebâtissant un temple. Et Zacharie, qui écrit un peu après Agée en anglais, vient là aussi les encourager. On a vu qu'il avait eu, en une seule nuit, il avait eu huit visions, ou dix, suivant comment on les découpe, et que c'était tout pour encourager les Juifs qui étaient de retour. C'était un petit nombre par rapport au nombre important de Juifs qui avaient été déportés, qui s'étaient installés à Babylone. Il veut leur redire combien il est pour eux, combien il va les aider. On avait vu ces visions. Je vous invite, si vous voulez les voir, si vous ne les avez pas vues avec nous, vous pouvez vous brancher aussi sur Internet et sur le podcast de Calvary Chapel. Il a maintenant, on a commencé à partir du chapitre 7, on a vu des paroles d'encouragement. Ils avaient une question sur le jeûne. Le jeûne, c'était quelque chose qu'ils avaient instauré pour célébrer toute leur misère. Un peu comme nous, on célèbre l'armistice. La victoire de l'armistice, c'est pas vraiment quelque chose de très joyeux parce que le pays était complètement détruit, des millions de morts. Et la grande tragédie pour les Juifs de l'époque, c'était que le temple avait été détruit par les Babyloniens. Et donc ils se souvenaient de cette défaite et ils jeûnaient pour d'autres occasions. Et puis ils se posaient la question, maintenant qu'on est en train de rebâtir le temple, que le temple a été rebâti, est-ce qu'on doit continuer à jeûner, à faire ce jeûne? Et on a vu la réponse de Dieu que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les choses extérieures, ce n'est pas les cérémonies, ce n'est pas les rituels, ce n'est pas les vêtements d'apparat, c'est notre cœur. Il veut que notre cœur lui appartienne vraiment. Et pour encourager, il leur dit qu'il prédit, c'est un livre de prophétie, encore une fois, et on voit comment les prophéties qui se trouvent dans ce livre vont être réalisées à la lettre. On a parlé de l'empereur de Grèce, Alexandre le Grand, qui a suivi le trajet qui est indiqué plusieurs centaines d'années à l'avance pour venir sur Jérusalem. Et puis, en fait, on voit comment Dieu est intervenu. Il a donné un rêve à Alexandre qui a vu un grand prêtre dans son rêve et qui s'est dit que si, dans son rêve, il savait que s'il se prosternait devant ce grand prêtre, Dieu lui donnerait du succès dans sa bataille contre les Perses. Alors c'était peut-être pas la meilleure motivation, il était prêt à se prosterner pour avoir quelque chose, mais Dieu l'avait interpellé. Et c'est important aussi de savoir que Dieu contrôle les événements, il contrôle les circonstances, il contrôle les personnes. J'aime toujours ce verset des Proverbes qui dit que le cœur du roi est comme un filet d'eau entre les mains de Dieu. Quand vous faites la vaisselle et que vous voulez faire partir quelques miettes, vous dirigez le filet d'eau avec votre main. Dieu, c'est pareil. Il peut changer les présidents, les rois, les politiques, les guerres, le sort de... Parce qu'il a une puissance, encore une fois, infinie. Il a prévu non seulement l'épisode d'Alexandre, mais la grande prédiction de tous les prophètes, c'est la venue du roi de Sion, Jésus. Il est annoncé par les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Vous reconnaissez peut-être les paroles de la chanson, mais c'est ce que dit la Bible. La Bible annonce la venue de Jésus, qui est venu une première fois, c'est ce que nous célébrons à Noël, il s'est incarné. Et puis, ils annoncent aussi son retour. On sait qu'il s'est offert un sacrifice, que le sacrifice a été accepté par le Père, que le Père l'a ressuscité en signe d'acceptation, qu'il est maintenant assis à la droite du Père et qu'il va redescendre à la fin des temps pour remettre les pendules à l'heure, pour établir un royaume qui va durer 1000 ans et auquel succédera une éternité avec Dieu pour ceux qui l'acceptent et ceux qui veulent l'honorer. Ce roi, on a vu qu'on a comparé Alexandre qui était tout dans la démonstration de puissance, qui arrivait sur un grand cheval blanc, qui était d'une cruauté sans pareille, qui faisait peur à tous ses ennemis. Et puis, il y a ce roi qui va venir sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'est une prophétie qui s'est réalisée ce qu'on appelle typiquement le jour des rameaux, lorsque Jésus a fait son entrée triomphale, entre guillemets, à Jérusalem. Parce que c'était triomphal pour ceux qui le connaissaient, ceux qui l'avaient dans leur cœur. Les autres, c'était des mouvements de foule. Mais on sait que quelques jours plus tard, ils allaient le faire condamner à mort. Crucifiez-le, crucifiez-le. Mais on a cette merveilleuse promesse de la venue de Jésus. Et on arrive donc au chapitre 10. On va voir si on peut étudier le chapitre 11 dans la foulée, parce qu'en fait, ils sont reliés, ces deux chapitres. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, Israël, le peuple de Dieu, est décrit comme le troupeau de Dieu. Et ses dirigeants sont décrits comme des bergers. Nous, on parle de monarque, on parle de président, on parle de monarque républicain. La Bible parle de berger. Alors, encore une fois, le grand berger, le Seigneur est mon berger, psaume 23. Mais on va voir on va commencer par parler du berger fidèle, au début du chapitre 10. Et puis au chapitre 11, on va voir qu'il y a des faux bergers qui ont fait beaucoup de tort au peuple de Dieu. Et puis on va enchaîner sur un berger encore plus fou, quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans cette situation de berger. Il est peut-être vivant aujourd'hui, Et ce berger fou, c'est l'antéchrist. Voilà. Donc tous on aspire. On aspire parce qu'on a été créé ainsi, on aspire à être guidé par quelqu'un. Certains disent ni Dieu ni maître, mais on se cherche toujours quelqu'un à suivre. Ça peut être l'idole des jeunes. C'est intéressant de voir que les gens sont capables de sortir de l'argent pour acheter les CD d'un titre posthume de Johnny. Ça me fait pas toujours, mais lisons ensemble, trêve de commentaires tendancieux. Chapitre 10, on va lire le chapitre 10 et puis on passera peut-être au chapitre 11. Demandez à l'Éternel la pluie à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. En effet, les téraphimes ont des paroles vides. Les devins prophétisent des faussetés. Les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Ma colère s'est enflammée contre les bergers et j'interviendrai contre les boucs. Oui, les boucs. Oui, l'Éternel, le maître de l'univers, visite son troupeau, la communauté de Juda, et il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. De Juda sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront pareils à des héros qui piétinent dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et leurs ennemis, quoique montés sur des chevaux, seront couverts de honte. Je fortifierai la communauté de Juda et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés car je suis l'Éternel, leur Dieu et je leur répondrai. Éphraïm sera pareil à un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je sifflerai et je les rassemblerai car je les rachète. Et ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Quand je les aurai dispersés parmi les peuples au loin, ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de la détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du Nil seront à sec. L'orgueil de l'Assyrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai en l'Éternel et ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Posons-nous ici. On pense qu'après avoir parlé de la venue du roi de Sion, de la fin des temps, à la fin du chapitre 9, Zacharie revient un peu au temps présent en demandant, en encourageant les gens à demander de la pluie. Il y a deux saisons de pluie en Israël. Il y a une saison qui est au printemps, qu'on appelle des fois l'arrière-saison, parce que la première saison, c'est en automne, après avoir semé, après la récolte en été, au printemps, les graines. Il y a une première pluie, et puis il y a la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du printemps. Et il rappelle, c'est l'Éternel qui produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante, et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et puis il dit, en effet, les téraphimes ont des paroles vides, les devins prophétisent des faussetés, les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Vous vous souvenez peut-être dans Matthieu 9, lorsque Jésus dit de prier le Dieu de la moisson. Pourquoi ? Parce qu'il était ému et saisi de compassion en voyant les gens qui étaient complètement désorientés, qui n'ont plus de direction réelle, de direction spirituelle. Nous vivons dans un monde où les gens autour de nous n'ont aucune direction spirituelle, pour la plupart, malheureusement. C'est une vie un peu au jour le jour, ou année par année. Il y a le cycle des vacances, des congés, des études, et puis mais la vie va très vite, surtout vers la fin, alors que l'éternité, elle est très longue, surtout vers la fin. Une différence. Et donc, il y a ce désir de Dieu d'être un berger pour les hommes. Il sait qu'on a besoin de savoir où on va. On veut chercher quelqu'un. Ce qui explique qu'on se donne souvent un chef politique, parce qu'on pense que lui va nous sortir du chaos. Et on leur fait tous porter des fardeaux qui n'ont pas les reins pour porter. Et s'ils étaient honnêtes, ils le diraient, au lieu de dire qu'avec eux tout va changer. Ils pourraient dire, ensemble on va essayer de changer les choses, mais c'est pas facile, prions Dieu. Ah, ça serait une autre situation si on faisait ça. Mais il fait le contraste, qui c'est ces téraphimes ? Alors peut-être que votre Bible vous le traduit, c'était les idoles. C'était essentiellement des figurines qu'on gardait dans sa maison et qui représentaient les dieux protecteurs de la maison familiale. On entend parler des téraphimes dès la Genèse, lorsque Rachel, vole les téraphèles, non, les téraphimes. Le im, c'est le pluriel en hébreu, hein. C'est pour ça qu'on parle des téraphimes. Des chérubims, on a traduit ça en chérubin, de son papa, et ça provoque des crises. Il en est question dans 1 Samuel, dans 2 Rois, c'était des idoles. Et ce que dit Zacharie, c'est arrêtez de vous confier aux idoles, confiez-vous au Dieu véritable. C'est lui qui produit, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui va vous donner les orages dont vous avez besoin pour vous donner la pluie qui donnera de l'herbe dans vos champs. Et les idoles, ceux qu'on met en avant, ceux qu'on... Et on sait que pour nous aujourd'hui, généralement, on n'a pas une petite statuette. On peut avoir un écran plat, un téléphone, qui deviennent des choses auxquelles on accorde toute notre importance, toute notre attention, plus exactement. Une idole, c'est tout ce qui prend la première place qui devrait revenir à Dieu dans nos vies. Et ça peut être l'argent, le sexe, le pouvoir, la célébrité, l'éducation, même la famille, si elle est mal comprise, si on ne vit plus que pour soi, alors c'est un égoïsme élargi, mais on se moque bien de ce qui peut se passer chez le voisin et on se sent très seul. Et ces idoles, le problème, c'est qu'on croit, on pense qu'elles vont nous apporter le bonheur, la sécurité, la satisfaction, la plénitude. On est prêt à faire des sacrifices, à travailler très dur pour s'enrichir, à ne plus prendre de vacances, ne plus passer de temps avec sa famille, ou l'inverse. On croit que ces choses vont nous procurer le bonheur. Et ce qui se passe des fois, c'est que même parmi les chrétiens, on prie Dieu, Dieu se souvient, et il accorde sa bénédiction au temps voulu. Et si son temps n'est pas celui qu'on espère, n'est pas le temps qu'on attend, on se dit, on va aller voir ailleurs. On va se tourner vers l'horoscope, vers l'astrologie. Si vraiment on a une crise, on va même rentrer dans une petite roulotte, aller faire de la divination avec un charlatan ou une charlatane, je ne sais pas comment on dit le féminin de charlatan, mais... Et ça, c'est, c'est très dangereux de se détourner du Dieu vivant et véritable parce qu'il n'accorde pas les réponses que nous attendons tout de suite ou qu'il nous donne des réponses qui sont contraires à ce que nous aimerions avoir comme réponse. Et c'est terrible de penser qu'il y a ce Dieu tout-puissant. Cette puissance, elle est là, on peut y faire appel par la prière. Et c'est terrible de penser que les promesses de Dieu, il sera toujours avec nous, il y a des livres de promesses. C'est un livre que je recommande, je ne sais pas s'il y en a en ce moment à la librairie évangélique. À côté de la Bible, c'est le second livre le plus important, parce qu'il extrait de toute la Bible les promesses que Dieu nous fait. Les connaître et prier pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Pas les réclamer en disant « c'est un scandale, tu m'as promis le bonheur et regarde ». Non, prier. Les nombreuses promesses de Dieu pour nous doivent nous inciter à prier pour leur accomplissement. Et il dit le résultat des courses, si on se confie en des idoles au lieu de se confier en Dieu, qui est le berger fidèle, alors c'est pas étonnant qu'on soit malheureux, qu'on soit errant comme un troupeau. Ce qui est beau dans l'économie divine, c'est que pour nous, on a un monde d'économie où on pense que l'idée d'égalité, c'est que tout le monde doit être pauvre. Si on partage, on va tous être pauvres. L'égalité chez Dieu, c'est que si on partage, tout le monde est riche. Dieu a des ressources infinies. Nous raisonnons avec un monde d'économie, avec un nombre de ressources limitées, et on pense que si on prend une taxe ici, ça va vouloir dire qu'il y aura moins d'argent ici. Mais ça, c'est l'économie humaine. L'économie divine, c'est une économie d'abondance infinie. Les devins, donc, ils interrogeaient, c'était les gens qui faisaient les horoscopes de l'époque, c'était ceux qui priaient et qui racontaient des histoires. Une chose importante, les rêves mentent. Faites attention aux impressions que vous pouvez avoir, aux rêves même. J'ai rêvé ceci, donc ça va se réaliser, ou je dois donc faire cela. Prenez toujours le temps de mettre ce que vous avez reçu par un rêve, peut-être, en comparaison avec la parole de Dieu. J'ai eu un rêve que si je quittais ma femme et mes enfants, j'allais être très heureux. Ciao, baby. Non. Ça, c'est notre vieille nature, elle peut s'exprimer, notre chair, elle peut s'exprimer dans nos rêves. On n'a pas un filtre à rêve qui nous protège de ces mensonges. Les consolations, toutes ces faussetés, les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est vain, c'est vide. Donc le prophète invite le peuple à se tourner vers l'Éternel, se détourner des idoles. Il va promettre ensuite donc une glorieuse victoire à Juda, et puis aussi, à partir du chapitre du verset 7, une libération pour Éphraïm. On l'a souvent répété, mais si vous n'êtes pas au courant, le royaume d'Israël que Dieu avait confié à David et à Salomon a été divisé à la mort de Salomon. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Le sud, c'était Juda avec comme capitale Israël. Le nord, c'était avec comme capitale Jérusalem. Et le nord, c'était ce qu'on appelle des fois Israël avec comme ville Samarie, la capitale. Et donc, on appelle cela aussi des fois, parce que c'était la tribu la plus importante, Éphraïm au nord, Juda au sud, Et aussi, Éphraïm, ça descendait de Joseph, c'était des descendants de Joseph. Donc, lorsqu'il est dit au verset 6, je délivrerai la famille de Joseph, il était question du royaume du Nord. Alors, la victoire promise à Judas, c'est la colère qui s'est enflammée contre les bergers, et j'interviendrai contre les boucs. Oui, l'Éternel, le maître de l'univers, visite son troupeau, la communauté de Judas. Il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. Il y avait des mauvais dirigeants, notamment des dirigeants religieux, qui ne cherchaient plus vraiment la relation personnelle, la relation véritable avec Dieu, mais qui se focalisaient sur des rituels, sur des cérémonies, sur des choses externes, et qui laissaient les gens qui n'avaient pas de compassion pour le peuple. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre les bergers. Il allait intervenir contre les boucs, c'est-à-dire, on pense que c'était les puissances païennes ou les faux prophètes. Dans Ésaïe, c'est utilisé une fois pour parler des grands de la terre. Et Dieu se fâche contre les gens qui utilisent la religion pour des fins personnelles, que ce soit matérielles. Et ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. On connaît tous les télévangélistes, mais on parlait hier d'une situation où il y a quelqu'un qui semble être plus focalisé sur l'argent que sur donner du temps à ses brebis. 1 Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, il parle aux anciens et il dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Les responsables à l'époque et aujourd'hui dans l'Église, et c'est les pasteurs, les missionnaires, mais tous ceux qui s'impliquent, les diacres, ceux qui servent dans l'Église, doivent être des modèles pour le troupeau. Alors c'est pas facile, on peut dire « suivez Jésus », faites comme lui, mais pas comme moi. Mais il veut qu'on fasse tous nos efforts avec sa grâce pour être des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent, qui ne sont pas intéressés par le pouvoir, qui ne sont pas intéressés par le sexe. Ça, c'est les trois raisons principales des problèmes, des scandales qu'on trouve dans l'Église. Et Dieu a de la force à nous donner. Éphésiens 6, 10 « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance, toute puissante. » D'autres versions disent « sa force souveraine ». Et souverain, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Cette force, le fait qu'elle est disponible, veut dire qu'on peut avoir l'opportunité de l'utiliser, de la demander son utilisation. Et on a vu que, au verset 6, il dit « Je fortifierai la communauté de Judas ». Parlant de Éphraïm, verset 12, il dit « Je les fortifierai ». Dieu veut nous fortifier. Notre prière, c'est « Seigneur, enlève cette difficulté, je t'en prie. Fais que ça se résolve tout seul. » Sa réponse est « Je ne vais pas enlever la difficulté, mais je vais te donner la force d'y faire face et de la surmonter. » Des fois, on prie pour les mauvaises choses. Même quand on intercède pour les autres, Dieu est souverain et s'il permet des difficultés dans la vie des gens, c'est peut-être pour une bonne cause, pour qu'ils se tournent vers lui. Mais nous, on est là. « Oh Seigneur, surtout, fais que ce ne soit pas le cancer. Surtout, fais qu'ils gagnent leur procès. » Surtout fait, et en fait, le Seigneur nous dit simplement qu'il nous promet sa force toute puissante dans toutes ces épreuves. Il parle que Judas va devenir comme l'instrument principal de sa victoire. Pourquoi ? Parce que de Judas, et ça c'est prophétisé 500 ans avant le premier Noël, avant Jésus-Christ, de Judas sortira la pierre angulaire que les bâtisseurs ont négligé, ont mis de côté. Ça c'est une illustration qui revient sans arrêt dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. C'est celui sur lequel vous pouvez fonder votre vie. Il est le piquet de tente. Ça, c'est un peu bizarre. On a tous l'idée d'un piquet qui est à moitié écrasé parce que quand on a tapé dessus avec un gros marteau, on avait une belle pierre dessous. Donc le piquet, maintenant, c'est un bout de fer forgé. Le piquet, c'était ce qui soutenait l'ensemble de la tente pour ceux qui étaient à l'époque d'Abraham, qui vivaient sous des tentes. Et le piquet, c'était le meuble Ikea. Ils n'avaient pas de placard Ikea. Ça n'existait pas. Les bibliothèques Billy, ça n'existait pas. Donc, on accrochait le seul endroit qui était stable et qui n'allait pas tomber, c'était le piquet central. Donc on accrochait ses vêtements, les sacs avec les choses précieuses, c'était leur meuble, leur garde-meuble. C'était pas garde-meuble, mais c'était là où ils gardaient les choses. Donc c'était essentiel. C'était aussi bien sûr l'arc de guerre. On comprend que c'était lui qui allait envoyer les flèches. De lui allaient sortir tous les chefs ensemble. Ça, c'est une façon de dire aussi qu'il allait régner sur tous les chefs qui s'opposeraient à Israël, les chefs étrangers. C'est une façon de voir cette phrase un peu sibylline, un peu cachée. De Judas sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre. De lui sortiront toutes les chefs ensemble. S'il y a des artistes parmi nous, ça ferait un beau tableau. De parler de Jésus-Christ en représentant une pierre angulaire, un piquet, un arc de guerre et des chefs qui sont dominés. Je ne donne pas d'idée à personne, mais on a parmi nous des artistes qui peut-être pourraient utiliser cela. Ils seront pareils à des héros qui piétinent dans la bataille, la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux et leurs ennemis, quoique montés sur des chevaux. À l'époque, les chevaux, c'était les blindés des pays païens qui les attaquaient. Et même leurs ennemis, ils ne pourraient pas faire face aux vaillants soldats qui allaient être pleins d'énergie parce qu'ils allaient suivre le bon berger qui allait venir de Juda. Il dit donc, je fortifierai, verset 6, la communauté de Juda, je délivrerai la famille de Joseph, donc c'est le royaume du Nord conquis. Je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je leur répondrai. Il passe ensuite à Éphraïm, donc le royaume du Nord. Éphraïm sera pareil à un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin. Encore une fois, le vin consommé avec modération est une bonne chose. La médecine moderne a trouvé que ça pouvait même protéger de l'athérosclérose qui peut causer des crises cardiaques. Alors, ce n'est pas une licence pour se saouler. Leur fils le verront, seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Le Seigneur va fortifier, il va rendre costaud, capable de gagner les batailles, mais il va aussi donner la joie. Et ça, c'est aussi un signe du chrétien, c'est qu'on a la paix parce qu'on est on a la force de Dieu, la force tranquille, qu'on peut invoquer sur les situations qui nous dépassent, mais il nous donne aussi la joie. La joie du Seigneur, Néhémie rassemble les deux, sera notre force. Quand on a une joie véritable au fond du cœur, on peut bénir ceux qui nous entourent. On peut affronter les situations difficiles. Il est dit qu'il va siffler et rassembler Éphraïm et on peut inclure maintenant Juda et Ephraïm, Israël en entier. Je les rachète, ils seront aussi nombreux qu'autrefois. Il les aura dispersés, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Alors là, il y avait une réalisation pratiquement immédiate lorsqu'ils reconstruisaient le Jérusalem, le temple. Mais il y a aussi une réalisation eschatologique, c'est-à-dire, ne vous laissez pas intimider par le mot, ça veut simplement dire une réalisation à la fin des temps. Le retour d'Israël, le rassemblement d'Israël est prophétisé sans arrêt dans l'Ancien Testament. Deutéronome 30, Jérémie 23, 32, Ézéchiel 11, 36, 20. Et ce qui est incroyable, c'est que ces prophéties se sont en partie réalisées le 14 mai 1948. Lorsque Ben Gurion a déclaré que l'État d'Israël était établi avec l'accord des Nations Unies de l'époque. Certains pensent même que la Shoah a été la façon dont Dieu a permis le rétablissement d'Israël. Parce qu'il y avait une telle culpabilité des nations occidentales pour ce qui s'était passé pour le peuple juif, que l'idée de leur donner un territoire, même si ça allait causer des problèmes, a été acceptée. Alors ça, c'est une réalisation partielle dans le sens où il y a une renaissance de l'État Israël comme entité politique, mais il n'y a pas encore la foi en Jésus, ils n'ont pas reconnu encore leur sauveur. Mais lorsqu'on étudie les livres prophétiques et même l'Apocalypse, on voit qu'il va y avoir un retour en masse du peuple juif au vrai Messie. Pour l'instant, ils ont rejeté le Messie qui est venu une première fois parce qu'ils attendaient un Messie triomphant. Ils ont vu un gars qui se faisait crucifier, entre guillemets, respectueusement, une personne en qui ils ne croyaient pas. Il ne voyait pas le Fils de Dieu, le Messie, parce qu'il était impuissant contre les Romains. Mais il va revenir. Il nous décrit donc, ils vont être nombreux. Il va les ramener d'Égypte. Alors ça peut... L'Égypte, c'est un symbole de la captivité du peuple juif, d'après leur histoire. Un pays où ils avaient été exilés, c'était la Syrie. Donc tous les pays où ils ont été dispersés, il va les faire venir au pays de Galaad et au Liban. L'espace ne leur suffira pas. Il y aura beaucoup de juifs qui seront sauvés. Verset 11, il passera la mer de la détresse. Alors ça, c'est aussi un parallèle avec l'exode de l'Ancien Testament. Certains pensent que ça fait peut-être une référence justement à l'Holocauste, à la Shoah. Il frappera les flots de la mer, c'est du Nil, et toutes les profondeurs du Nil seront à sec, donc il pourra les libérer comme il l'a fait dans le passé. L'orgueil de la Syrie sera abattu, le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai en l'Éternel, ils marcheront en son nom, déclare l'Éternel. Là, on a la présence du berger fidèle qui va sortir de Juda et qui va mener son peuple à la victoire. La bonne nouvelle, c'est que, et le grand mystère de la Bible, c'est que l'Église, dont il n'est pas encore question, va être associée à cette victoire. Et le grand miracle, c'est qu'il n'y aura pas de séparation entre les chrétiens et les croyants juifs. Nous deviendrons tous des chrétiens. Maintenant, on parle d'un début de mouvement, ce qu'on appelle les juifs messianiques. Ce sont eux qui reconnaissent en Jésus le Messie que leurs frères et sœurs qui ne croient pas en Jésus attendent. Ils attendent ce Messie. Et on va regarder les faux bergers. On va lire le chapitre 11. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé. Les puissances sont détruites. Gémissez, chênes du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements parce que ceux qui faisaient leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément, et celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis ». Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Non, je n'aurais pu pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils dévasteront le pays, je ne délivrerai personne de leurs mains. Alors je me suis mis à prendre soin destiné à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris deux bâtons, deux houlettes, j'ai appelé l'une grâce et l'autre union, et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les trois bergers en un mois, mais j'ai perdu patience avec elles, et elles-mêmes en ont eu assez avec moi. Alors j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous, que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette grâce, et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là, et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour moi mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel m'a dit, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés, il ne nourrira pas les bien portants, mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, que l'épée déchire son bras et crève son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu. En fait, il est prophétisé ici le rejet de Christ. Vous avez reconnu les 30 pièces d'argent qui ont été jetées dans le champ du potier. Matthieu utilise ce texte pour montrer que la prophétie de Zacharie a été accomplie lorsque Judas était payé 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Lorsque un de vos bœufs écornait et faisait mourir l'esclave du voisin, la prescription dans la parole de Dieu, c'était de donner 30 pièces d'argent. Et ce qui est ironique, c'est qu'en fait, c'est le prix du Fils de Dieu, ça a été le prix d'un esclave. C'est le montant qui a été versé pour lui. Il parle des arbres, que le feu dévore tes cèdres. Lorsqu'il dit « Liban, ouvre tes portes », certains pensent qu'en fait il parle du temple, parce que le temple était rempli de bois qui venait du Liban, les cèdres et autres acacias, etc. « Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé, les puissances sont détruites. Gémissez, chênes du Basan, c'était une région d'Israël très riche où il y avait beaucoup de chênes. La forêt impénétrable est abattue. » Alors là, c'est toujours du vocabulaire prophétique. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait vraiment une image de cette forêt? On pense peut-être que c'était plutôt les différentes classes de gens qui existaient dans la société de l'époque. Tout le monde pouvait se sentir touché par le jugement de Dieu. Il prophétise, voici ce que dit l'Éternel mon Dieu, prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Donc, comme souvent les prophètes font dans la parole, on les voit, ils vont obéir à la lettre, à ce que Dieu leur demande. Et donc, Zacharie a pris des brebis, il a fait un troupeau dont il a parlé, dont il a, verset 7, « Je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certains des plus misérables du troupeau. » Et il a en quelque sorte joué un jeu de rôle qui appartient vraiment à Dieu, à Jésus-Christ. Et les bergers n'avaient pas pitié des animaux. Encore une fois, les chefs religieux se moquaient bien du bien-être matériel, émotionnel, spirituel des personnes dont ils avaient la charge. Et ça, c'est encore les faux bergers qui sont en horreur à Dieu. Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Et il a ces deux bâtons, vous savez, le berger dirigeait ses brebis avec des houlettes. C'était un bâton avec une espèce de canne, une boucle ou une demi-boucle, un arrondi, une anse, qui leur permettait d'attraper l'animal par les pattes et de les ramener dans le droit chemin s'il s'en écartait. Et ça aussi, ce serait un beau tableau à faire. Une houlette qui s'appelle grâce et une autre houlette qui s'appelle union. La grâce, c'était ou beauté, c'est la situation de bienveillance de Dieu envers son peuple élu. On est tous au bénéfice de sa grâce si on la reçoit. L'union, c'était l'union entre le peuple, l'union dans le peuple entre Israël au nord et Juda au sud, qui allait être perdu au siège de Jérusalem lorsque ces pays ont été déportés. J'ai fait disparaître les trois bergers en un mois. J'aimerais vous donner une réponse claire et nette là-dessus, mais j'en ai pas trouvé moi-même. Vous pouvez prier que le Seigneur vous en inspire une. Certains pensent que c'est peut-être trois classes d'individus, les prophètes, les prêtres, les rois d'Israël, qui n'ont plus jamais été réinstitués après l'invasion romaine. Il leur dit je ne prendrai plus de soin, que celle qui va mourir meure. Et là, il fait un geste symbolique, il prend sa houlette grasse, il la brise pour rompre l'alliance conclue non seulement avec le peuple élu, mais tous les peuples. Et c'est vrai que la grâce de Dieu, elle est offerte à tous. Mais il arrive un jour, il peut casser cette grâce, cette offre. Les plus misérables des brebis, celles qui souffraient le plus, ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Et là, il a demandé son salaire, et on lui a donné ses 30 pièces d'argent qui ont été offertes. Et il a plaisanté en disant ce prix magnifique. Le champ du potier, c'était là qu'on jetait les bouts de vaisselle cassés. Et encore une fois, ça a été au verset 14, il brise la deuxième houlette, union. Une autre façon de traduire, ce serait cordon, mais c'est la fraternité entre Juda et Israël est rompue. Juste rapidement, le berger fou du verset 15, il fait surgir un berger qui s'occupe pas de ses brebis. Pas du tout. Il les abandonne. Et là, au verset 17, il y a un mot prophétique qu'on retrouve dans l'Apocalypse 13, 3 et 13, 11 et 12, qui désigne l'antéchrist qui se fait blesser à l'œil droit, qui est touché, qui est ressuscité. Apparemment par Satan. Et donc, après le vrai berger dont il était question au chapitre 10, les faux bergers au début du chapitre 11, on parle du berger fou de l'antéchrist. La parole de Dieu, elle se commente elle-même. Quand on a du mal à dire qui étaient les trois bergers, on devrait dire « Stop, je reprends la Bible et je relis en me demandant où sont ces trois bergers. » Et c'est peut-être possible que ce soit les pharisiens, les hérodiens, les scribes, ou bien les rois, les prêtres, les prophètes. Mais c'est pas un mystère. Elle nous a été donnée, les choses qui ont été données par Dieu sont données pour qu'elles nous appartiennent. Les choses qu'il retient volontairement, peut-être que là il ne veut pas qu'on sache qui sont ces trois bergers, elles appartiennent à Dieu. On aura tout le temps de lui demander, de lui poser des questions. Vous imaginez de relire la Bible avec Jésus qui peut nous dire bah « ça voulait dire cela ». Tu n'avais pas compris ? Homme de peu de foi, homme de peu d'intelligence. Un problème. Matthieu cite les 30 pièces d'argent jetées dans le champ du potier. On va s'y tourner rapidement. Matthieu 27. Déjà, Matthieu 26, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Et puis au chapitre 27, là on était dans 26, c'était 26, pardon, 14, maintenant on passe à 27, 9 et 10. Judas, celui qui l'avait trahi, je lis à partir du verset 3, il va se suicider. Celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier ou le champ du sang pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent à la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites et les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors, si vous avez été attentif, j'ai lu ça très vite, mais Matthieu cite le passage en disant que ça vient de Jérémie. Problème. Toute la Bible est fausse. On peut tout jeter et aller s'amuser. Alléluia. Oh, honte à moi de parler comme ça. Il y a trois... Quand il y a des erreurs, c'est qu'il y a une solution possible, et je vous les livre, après vous en faites prier, demandez à Dieu de vous montrer la vraie solution. L'erreur n'a pas été faite par Matthieu, qui était inspiré par l'Esprit Saint, mais par un des premiers copistes, qui a dit, le prophète Zacharie, Jérémie a dit, c'est une possibilité. Ou alors, peut-être que Jérémie avait prononcé ces paroles et que Zacharie les a redites. Ou alors, une autre solution, c'est qu'en fait, tout le texte, dans les synagogues, le texte, le rouleau où il y a la prophétie de Jérémie, il y a aussi la prophétie de Zacharie à la fin. Donc, on dit, c'est le petit Robert et on parle de Jérémie quand on parle de Zacharie. Mais ne laissez surtout pas ça vous intimider. Par contre, ce qu'il est bon de réaliser, c'est que ces prophéties qui sont réalisées à la lettre, ça vous montre que la Bible est inspirée par Dieu. Si on prend dans la classe de Daphné, il y a moitié des garçons, moitié des filles, on va dire. Chez les filles, il y a moitié des blondes et moitié des brunes. Chez les garçons, il y a moitié des blonds et moitié des bruns. Si on prend un enfant au hasard dans la classe, quelles sont les chances que ce soit un garçon ? Une chance sur deux. 50%. quelles sont les chances que ce garçon, que, qu'une petite fille ait les cheveux blonds, que la petite fille qu'on appelle, qui sort de la classe, ait les cheveux blonds. C'est la moitié de la moitié, donc c'est un quart. Donc on appelle ça les probabilités composées. Plus il y a de conditions à respecter, et moins la chose est probable. On n'a pas le temps, malheureusement, de donner beaucoup de détails, mais sachez, et j'ai des éléments, on aura l'occasion d'en reparler, on en a déjà beaucoup parlé, qu'un mathématicien s'est intéressé à voir la probabilité que 8 prophéties concernant le Messie se réalisent au hasard. Alors il a compté le fait qu'il soit né à Bethléem, le fait qu'il entre sur un âne, ça c'est facile, il savait que ça devait être respecté, donc il a fait venir l'âne, qu'il soit trahi par un ami, qu'il soit trahi pour 30 pièces d'argent. Et à chacune de ces conditions, il a fait évaluer par des étudiants, c'était à l'école de Westmont, en Californie. On a eu la visite de Dave Newton l'an dernier. Sa femme Kim s'est organisée. Il était professeur responsable du département financier dans la même école que ce Peter Stoner qui a fait les calculs. Il a pris des étudiants en doctorat. Ils ont essayé d'évaluer les chances de chacun de ces événements. Et ils ont dit pour que 8 de ces événements se passent dans la vie de quelqu'un pris au hasard dans l'histoire de l'humanité, c'était une chance sur 10 à la puissance 17. 10 à la puissance 17, c'est 10 suivi de 17 zéros. Ça veut dire que c'est impossible, pratiquement. Et c'est seulement 3 des prophéties, 8 des prophéties, il y en a plus de 300 sur Jésus. Les chiffres sont inimaginables, donnent le vertige. Les probabilités sont impossibles pour que ça soit passé au hasard, qu'un gars pris dans l'histoire de l'humanité accomplisse toutes ces prophéties, c'est absolument impossible. Pour les 8 prophéties, le 10 à la puissance 17, ça ne vous dit rien. Une illustration, c'est d'imaginer qu'on prend des pièces de 2 euros et qu'on en a assez pour les recouvrir toute la France sur une épaisseur de 30 cm. Et puis, je demande à Pierre Ménégoli de faire une croix sur l'une de ses pièces avec un feutre rouge indélébile. Et puis je lui dis, tu reprends la pièce, tu la jettes en hélicoptère sur la France. Maintenant, on va bander les yeux de Marion. On l'amène en France. Elle descend et on lui dit, cherche la pièce rouge avec la croix rouge. Les chances qu'elle ait de retrouver cette pièce en se baissant sur le sol, c'est l'équivalent de 1 sur 10 à la puissance 17. Alors de grâce, ayez confiance dans la parole de Dieu. C'est la vérité, ces prophéties qu'on étudie se sont accomplies à la lettre. Celles qui ne sont pas encore accomplies à la lettre, c'est futur et elles vont s'accomplir à la lettre. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyons dans la joie, dans la paix. Amen.
Amen.
Prions. Seigneur, merci pour tes prophètes, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas eux qui ont parlé, mais c'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui les a inspirés. C'est lui qui leur a fait voir des choses, qui les a fait mettre ces choses sur des parchemins et qui sont parvenus à notre connaissance. Merci parce que nous avons cette vérité à portée de nos mains, Seigneur. Nous prions pour qu'elle fasse vraiment le saut de la page du papier jusqu'à nos yeux, jusqu'à notre cerveau, jusqu'à notre cœur surtout. Aide-nous à vivre ces choses, à les mettre en application. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre ouvrage sous les cieux qui nous montre le cœur humain et comment il fonctionne, Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux, parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés, que celui de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Sois béni parce que tu as daigné nous toucher, tu as daigné nous parler, Seigneur. Fortifie ton peuple, merci de le diriger, Seigneur. Merci parce que tu es le grand berger. Et qu'en toi, Seigneur, nous ne manquons de rien.
Alléluia.
Amen.